Nous sommes mardi, il est 13h et l'émission Ondes Positives commence à l'instant. Certains d'entre vous sont en vacances, bien au chaud dans leur foyer, d'autres sont sur leur lieu de travail, d'autres encore sur la route, qu'importe. Tout le monde est concerné par les messages positifs qui font du bien à l'âme, alors prenez le temps d'écouter ce qui va suivre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Toro-Glosa, de l'association Parents Aujourd'hui, qui accompagne les adultes dans leur relation à l'enfant. Les adultes, pas seulement les parents, mais tout adulte en contact avec les enfants, les grands-parents, les instituteurs, les tuteurs, les beaux-parents, les assistantes maternelles, etc. Alors, bonjour.
Bonjour Dorothée.
Avant que tu nous parles de ton association et de ton message positif, on partage d'abord, Nathalie, ta bonne nouvelle de la semaine.
Alors, ma bonne nouvelle Dorothée, c'est la création d'une nouvelle association qui s'appelle Stop VEO. Mm-hmm. Alors, ça veut dire VEO, ça veut dire violence éducative ordinaire. D'accord. Donc, c'est une association nationale qui vise à fédérer tous les événements et toutes les manifestations qui sont en lien avec la lutte contre les violences éducatives ordinaires. En gros, les violences éducatives ordinaires, ce n'est pas de la maltraitance telle qu'on peut l'entendre dans notre quotidien. C'est vraiment tous ces petits gestes, tous ces petits mots qui finalement ne favorisent pas le développement de l'enfant et qui au contraire abîment un petit peu son estime de lui.
Mm-hmm. Voilà. Oui, il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence psychologique, verbale.
Oui, mm-hmm. Oui. Et tous ces gestes un petit peu brutaux qu'on peut avoir envers l'enfant, tous ces cris qui nous échappent à tous en tant que parents, adultes, professionnels. De l'enfance, peu importe. Voilà, ces comportements qui sont pas très respectueux finalement de l'enfant. Et au final, c'est important de pouvoir avoir conscience de ces gestes-là, de ces mots-là, pour pouvoir lutter contre ça. Et Stop VEO est donc une nouvelle association qui a un site internet que vous pouvez retrouver en ligne et qui vise vraiment à lutter et qui va même plus loin, qui est assez militant, si tu préfères, mm-hmm. Dans le sens où il y a effectivement en France en ce moment une loi qui est en train d'être discutée, un projet de loi qui vise à légiférer sur ce qu'on appelle la fessée. Mais ça va bien au-delà de la fessée. Hein. C'est pas seulement la fessée, c'est un petit peu un raccourci un peu rapide qu'on entend dans les médias. Mais effectivement, à Stop VEO, il nous paraît important de légiférer pour pouvoir à un moment donné avoir un curseur et de dire, ben là, on va trop loin et il faut pas en arriver à la maltraitance mm-hmm. et au décès des enfants. Il y a un peu plus de 2 enfants par jour qui meurent en France sous les coups d'un adulte mm-hmm. en France mm-hmm. en 2016.
Quand on entend violence éducative, donc évidemment on pense aux cas de maltraitance qui sont relayés dans les médias, oui. Mais la violence se cache dans des actes beaucoup plus banals, oui. Si j'ose dire. Le simple chantage affectif est déjà une violence.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est ce que je lisais justement sur le site de Stop VEO. Oui. Alors j'en profite pour donner le site internet stop-6-VEO comme violence éducative ordinaire.fr.
C'est ça.
Donc le chantage affectif, c'est déjà une violence.
Hein. Et oui. Et malheureusement, c'est souvent la manifestation d'un désarroi de l'adulte qui ne sait pas comment faire coopérer l'enfant mm-hmm. et qui du coup utilise des moyens comme ça, un peu délétères, pour soumettre l'enfant à son autorité.
Oui, alors là,
c'est un peu dommage.
Quand on s'aperçoit que le chantage est déjà une violence, on se dit qu'il y a énormément d'éducation à faire auprès des adultes.
Oui.
Parce que tous autant qu'on est, même quand on veut très bien faire et quand on conscientise tout cela, on a tendance quand même à utiliser le chantage affectif et non pas seulement auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes.
Hein. C'est ça.
On est tous des experts en chantage affectif quelque part. Alors donc la création de l'association Stop VEO dont tu nous parles, qui est ta bonne nouvelle aujourd'hui, est tout à fait en lien, Nathalie, avec le message positif que tu viens nous donner aujourd'hui. Alors je le cite, on peut devenir le parent que l'on rêve d'être.
Oui.
Je lui dirai qu'il est de ce pays où son grand-père était bûcheron, que dans son sang l'Orient coule aussi, que les mélanges font de beaux enfants, qu'il est fort et bien vivant. que nous l'attendions passionnément. Que chaque nuit s'efface au nouveau jour, qu'il sera grand mais qu'il a bien le temps. Oh Dieu, qu'il a bien le temps. Et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand. Qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien unique que pour moi. Je lui dirai qu'ici bas tout s'apprend, le bien, le mal et même le bonheur. Qu'il ne perde jamais ses yeux d'enfant devant trop de malheur et de laideur. Qu'il regarde avec son cœur. Je lui dirai d'être sage et prudent, d'aller frôler les glaces et les feux. Qu'il goûte à tout mais sans jamais dépendre, que trop peut être pire que trop peu, ou bien pire que trop peu. Qu'il est si grand, qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien unique pour moi. Je lui dirai les chansons, les poèmes, qu'il n'y a pas d'amour sans histoire, que le bonheur est un grain que l'on sème, qu'amour et santé ne s'achètent pas. Que de ça. Je lui dirai que jour une autre femme viendra l'aimer et qu'il l'aimera. Que j'en mourrai de bonheur ni de là, mais que nous serons là face à ses pas. Que si la vie c'est noir, et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand. Qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien unique pour moi.
Je lui dirai Céline Dion. C'est une chanson mise à l'honneur par mon invitée au micro d'Ondes Positives cette semaine, Nathalie Toro-Glosa, représentante de l'association Parents Aujourd'hui. Je lui dirai, alors on peut en dire hein, des belles choses à un enfant hein, oui. Quand on écoute cette chanson.
C'est vrai.
Il y a plein de choses merveilleuses à partager, à dire, des choses positives pour que l'enfant se construise sur des images positives du monde et de lui-même. Et là, ce n'est pas toujours les plus belles choses de nous, adultes, qui sortent en premier lorsqu'on s'adresse à l'enfant. Alors, est-ce que Nathalie, tu peux mais parler de ton exemple personnel, ton cheminement de maman et petit à petit de tes prises de conscience au cours de ces dernières années?
Oui, tu as raison Dorothée de dire ça parce que c'est vrai que quand on devient parent, on a fantasmé hein, cet enfant qui arrive, on s'est projeté dans notre rôle de parent, on s'est dit je ferai ci, je ferai ça, je vais transmettre ces valeurs-ci, ces valeurs-là. Et puis finalement quand l'enfant paraît, ben souvent on se sent un petit peu démuni. Et très vite, pour mon cas personnel, très vite, dès que ma fille qui a 17 ans aujourd'hui et a commencé à marcher, a commencé vraiment à communiquer avec moi. Hein. On est sorti des soins purement physiques, etc., de l'éveil du bébé. Et dès qu'elle a commencé un petit peu à dire non, à s'opposer, voilà, tout de suite j'ai été en grande difficulté parce que je ne comprenais pas. J'avais devant moi cet enfant qui n'obéissait pas. Voilà. Alors je parlais à l'époque d'obéissance. Maintenant, je préfère parler de coopération. Tout à fait différent. Mais à l'époque, je disais, mais elle n'écoute rien, elle n'obéit pas. Et c'était très, très compliqué et très conflictuel au niveau de la relation.
Parce que ça te remettait en cause dans ta croyance du rôle de mère qui doit se faire obéir.
Ben oui. Mmh. Ah ben oui. Et puis de dire, mais je fais tout pour elle, je fais tout pour qu'elle aille bien, je sais ce qui est bon pour elle. Et pourquoi est-ce qu'elle s'oppose? Et pourquoi ce petit être là, haut comme trois pommes, avait autant de tempérament et tellement de force à me tenir tête et à entrer en opposition? C'était très compliqué et puis je ne connaissais rien du développement de l'enfant, je ne connaissais rien du développement de son cerveau. Et c'est vrai qu'à 17 ans, ben, on savait peu de choses. Mmh. Depuis, ça a beaucoup changé.
Alors, tu as quand même pris l'initiative d'aller consulter un psychologue quand tu avais ces difficultés-là. Oui. Tu n'es pas resté dans ton coin avec ta problématique.
Non. J'ai beaucoup lu. Et j'étais tout à fait consciente qu'il fallait que moi je change, que mon comportement change pour que le comportement de l'enfant change aussi. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que je ne savais pas ce que je faisais de mal, je ne voyais pas ce que je faisais de mal.
Oui.
Et donc, voilà, à partir de là, j'étais un peu dans l'impasse.
Alors, c'est le premier constat que l'on fait. On n'apprend pas à être parent.
Et non.
On devient parent comme ça tout d'un coup pour un tas de raisons conscientes ou inconscientes.
C'est
mais
ça.
Finalement, on ne sait pas vraiment comment être un parent bienveillant et vraiment apte à donner à l'enfant l'autonomie dont il a besoin pour devenir un individu adulte libre, responsable.
Souvent, on a de belles ambitions, mais on est très maladroit. Voilà. Et on porte soi-même sa propre éducation aussi.
Mmh.
Et c'est pas si évident que ça de remettre, de jeter un regard sur le passé et de dire finalement qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était négatif? Et qu'est-ce que je veux transmettre à mon tour? Et comment je m'y prends? Voilà.
Alors, comment tu as trouvé des réponses décortiquer ce rapport qui commençait à être conflictuel avec ta fille?
Je suis tombée sur deux livres qui ont changé ma vie. J'ai pas honte de le dire, vraiment. Le premier, c'est celui d'Isabelle Filioza, qui s'appelle Au cœur des émotions de l'enfant. Mm-hmm. Isabelle Filioza.
Oui.
Et puis, j'ai lu aussi Adèle Faber, Hélène Maslisch, qui sont des auteurs américaines des années 70, qui ont écrit Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et c'est un peu un programme, une méthode de communication bienveillante dans la relation adulte-enfant.
Mm-hmm.
Et là, tout de suite, j'ai senti que je trouvais des clés, donc des clés de compréhension et puis vraiment des clés au quotidien pour pouvoir dire les choses différemment, de manière à inviter à plus de coopération. Et à partir de là, j'ai continué à cheminer. J'ai participé à un atelier entre parents. On était une dizaine de parents à se questionner tous ensemble sur la coopération, sur l'autonomie, sur les alternatives à la punition, sur comment éviter de poser une étiquette à l'enfant. Vous savez, le petit paresseux, la timide, le turbulent,
toi, tu ressembles
la pernicieuse.
À ton père,
hein. Oui, voilà. Hein, ça a été de mauvaise humeur, etc., etc. Et puis c'est de là qui est parti peut-être le projet de créer une association.
Ouais.
Donc, parents aujourd'hui est né en juillet 2013, mais c'est vraiment un projet qui a été porté, je dirais, pendant presque 8-10 ans.
Oui.
Voilà.
Nourri depuis 17
et oui,
ans en
et
tout
oui,
cas.
Oui, en tout cas, mais vraiment avec un tournant il y a 11 ans à la naissance de mon deuxième enfant,
ouais.
Où vraiment là, voilà, j'ai pu trouver des clés et mettre en place des choses, et donc du coup mes deux enfants ont été éduqués vraiment de manière très très différente.
Uh-huh.
Bien que maintenant, avec mon ado, ça se passe extrêmement bien. Et le message peut-être positif à passer, c'est que tout se rattrape et que la relation se nourrit au quotidien.
Uh-huh.
Et on peut avoir une très très belle relation, même quand ça se passe pas très bien au début.
Oui, ça c'est un message positif également à faire passer. C'est pas parce que on a galéré entre guillemets pendant les premières années et qu'on n'a pas été ce parent idéalisé rêvait d'être, qu'on ne peut pas évoluer et devenir ce parent, on revient à ton message positif, devenir ce parent auquel on aspire avec ses enfants. C'est-à-dire avoir une relation pacifiée avec l'enfant,
mais absolument,
tout simplement.
Absolument, et constructive, et une vraie relation de complicité forte, puisqu'on est bien conscient que l'enjeu avec l'enfant, c'est de le conduire, de l'accompagner tout au long de sa vie, de l'amener vers l'autonomie, hein, vers l'âge adulte. Mais c'est vrai qu'une fois que l'enfant devient adulte, il faut qu'on puisse aussi avoir une autre relation.
Mmh.
Et bien souvent, si ça s'est mal passé, l'enfant prend ses distances une fois qu'il est en âge de le faire. Et moi, je rencontre beaucoup de familles qui malheureusement ont des relations difficiles avec leurs enfants, qui du coup deviennent grands-parents.
et ont très peu de relations avec leurs petits-enfants parce que leurs enfants ne veulent pas confier ses petits-enfants. Voilà, enfin, il y a trop de contentieux dans l'histoire familiale.
Ouais.
C'est difficile.
Donc, l'idée, et ça se transmet généralement de génération
mais
en
oui,
génération,
mais oui.
toute cette souffrance. Tu nous parlais tout à l'heure de la connaissance du développement psycho-émotionnel de l'enfant.
Oui.
J'ai l'impression que c'est un peu, quand on veut cheminer vers l'éducation positive, c'est un peu un postulat de départ,
oui, oui.
Comprendre les besoins de l'enfant, son développement psycho-émotionnel.
Raisonner en termes de besoins, c'est essentiel pour comprendre l'enfant, pour pénétrer dans son univers. Les neurosciences, depuis une dizaine d'années environ, nous éclairent énormément sur la manière dont mature le cerveau de l'enfant. On parle beaucoup chez le jeune enfant de caprice. Alors le caprice, c'est un mot, ma définition du caprice, c'est un mot que les adultes emploient pour qualifier tout ce qu'ils ne comprennent pas du comportement de l'enfant. Voilà, l'enfant ne fait pas de caprice. L'enfant vit des tempêtes émotionnelles parce que son cerveau émotionnel est le seul qui soit connecté. Pour le moment, toute la partie du cortex préfrontal, orbitofrontal, qui se développe à l'âge adulte, jusqu'à à peu près 25-28 ans, certains spécialistes disent même 30 ans pour arriver à maturation totale du cerveau, et bien l'enfant, voilà, a son cerveau en maturation. Il ne peut pas calmer ses pulsions, calmer ses émotions
seul. Se raisonner, en fait.
Non, il ne peut pas, ne peut pas. Son cerveau émotionnel prend vraiment le pas jusqu'à au moins 7 ans. 7 ans. Et ensuite, à partir de 7-8 ans, jusqu'à l'adolescence, où il y a encore là beaucoup de transformations, beaucoup de reconnexions, déconnexions, reconnexions des neurones, le cerveau de l'enfant ne peut pas se raisonner, ne peut pas anticiper, ne peut pas prévoir véritablement la relation de cause à effet.
Alors, comprendre le développement psycho-émotionnel de l'enfant, ça ne veut pas forcément dire accepter tous ces comportements.
Absolument.
Hein. Je pense qu'il faut être un petit peu clair là-dessus.
Absolument.
Parce que beaucoup de détracteurs l'éducation positive, il faut que les enfants soient cadrés, etc. Il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait de la discipline, etc. Vont trouver quelque chose de très laxiste, en
c'est
fait.
C'est ça, c'est ça.
Alors, comprendre le développement émotionnel de l'enfant, ça veut pas dire être
beaucoup,
laxiste.
Oui, ça permet beaucoup d'indulgence, mais on est là aussi pour sanctionner le comportement quand il ne va pas. Et on peut avoir une autorité ferme et bienveillante. C'est pas du tout incompatible. On peut tout à fait dire « je ne suis pas d'accord ». Là, ce que tu as fait, c'est non. Stop.
Oui. Alors, par exemple, tu peux nous donner un exemple du quotidien quand il y a un enfant qui dit, alors pour reprendre les termes que l'on connaît tous, qui fait un caprice.
Oui, un caprice.
En éducation positive, pour arrêter avec ce comportement, pour faire en sorte que l'enfant s'apaise et que du coup, le climat familial s'apaise.
Oui. La première clé, les premiers soins émotionnels à donner à l'enfant, c'est l'écoute empathique, ce qu'on appelle l'écoute active. C'est refléter son émotion, refléter son sentiment avec des mots. Et c'est à nous adultes à pouvoir donner des mots à l'enfant qui lui permettent d'y voir plus clair dans ce qu'il ressent. Tu vois, un enfant qui est très très en colère, qui va pleurer, qui va taper, qui va trépigner, qui va se rouler par terre. Voilà, c'est ça, le caprice chez les tout petits, chez les moins de 3 ans. On va lui dire, ouh là là, je vois que c'est un moment difficile pour toi. Tu es très en colère là. Tu n'es pas content. Tu es frustré. Et on va donner du vocabulaire émotionnel à l'enfant. Ça va lui permettre d'y voir plus clair en lui. Parce que ce caprice là, il ne le fait pas contre l'adulte. C'est lui-même qui vit quelque chose d'extrêmement difficile et qui le submerge. On parle souvent de tsunami émotionnel. Tu vois, cette vague-là qui emporte tout et qui coupe l'enfant de sa raison. Il n'est pas en capacité de raisonner et de se calmer seul, surtout. Il a besoin de la présence chaleureuse et bienveillante d'un adulte, que ce soit son parent ou un professionnel qui l'accompagne en structure, à l'école, à l'accueil de loisirs. Voilà. Il a besoin d'un adulte pour le calmer. Et le contact physique est également un bon moyen, un bon moyen de calmer l'enfant, puisqu'on sait qu'un contact physique supérieur à 20 et quelques secondes, comment ça permet de libérer de l'ocytocine dans le cerveau. C'est une des hormones du bien-être et du bonheur chez l'homme. Donc l'ocytocine va permettre aussi à l'enfant de revenir à un état émotionnel plus stable. Voilà.
D'accord.
tu vois.
Prendre les enfants dans les
tout
bras,
à fait.
Accueillir.
En clair, ce que je veux te dire, c'est que c'est des fois quand nous, on en a le moins envie, que l'enfant en a le plus besoin.
Et voilà. Oui, et je t'entendais décrire une colère chez l'enfant, et ça nous montre vraiment que nous, en tant qu'adultes, on doit avoir fait un travail sur nous-mêmes,
oui.
Et être très au clair avec ses c'est propres ça. Émotions. Parce que sinon, il est facile de se laisser entraîner dans la colère de l'enfant,
oui, oui.
Et se mettre en colère soi-même.
Et d'être un peu en contagion émotionnel, comme ça, en éponge ouais. émotionnelle, ce que sont les enfants, mais ce que nous, adultes, on devrait pouvoir filtrer tout ça.
Mmh.
C'est... Moi, quand j'assiste à ça, que ce soit auprès d'enfants avec lesquels je suis en contact ou mes propres enfants, je dis mais ça leur appartient.
Mmh.
Ce n'est pas contre moi. C'est lui, c'est l'autre là qui vit quelque chose de difficile.
Mmh.
Voilà. Et ça, tout de suite, ça permet de mettre peut-être une juste distance.
Alors, ça veut dire que l'adulte qui ne doit pas se laisser embarquer dans la tempête émotionnelle des enfants, qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour se désidentifier aussi du comportement de son enfant et ne pas tout prendre pour soi.
Alors moi, j'aime pas trop donner des conseils. On dit
oui.
qu'il faut éviter de donner des conseils. Je vais te parler de moi.
Mm-hmm.
Ça passe bien évidemment par du développement personnel, par comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Là, quand je vois cet enfant là qui part comme ça en colère et que je sens que chez moi aussi là ça monte, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que moi aussi je suis comme ça à prendre de plein fouet cette colère? Alors c'est souvent les émotions un petit peu désagréables, hein.
Oui.
On dit bien des émotions agréables ou désagréables, hein, et pas positives ou négatives, puisqu'une émotion de toute façon elle est. Point. On peut pas la qualifier. Toutes les émotions sont utiles, hein, à l'être humain.
En fonction des circonstances, on la ressent agréablement ou désagréablement.
La peur et la colère ont leur utilité. Hein, ont leur utilité. Le développement personnel, ça passe effectivement à comprendre pourquoi est-ce que je surréagis à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que un acte anodin du quotidien que je verrai chez ma voisine ne me fera pas réagir, et quand c'est mon enfant qui le fait, paf, ça monte tout de suite là, direct, au quart de tour. Eh ben oui, il faut s'interroger un petit peu. Qu'est-ce que moi, à quoi ça me renvoie à moi en tant qu'adulte et peut-être en tant qu'enfant?
Oui.
L'enfant que j'étais.
Donc ça veut dire travailler aussi peut-être sur sa propre enfance,
oui, et sur ses propres émotions.
Mmh.
Oui.
Et puis, tu me parlais aussi d'indulgence envers le petit chacal qui sommeille en chacun de nous.
Oui, et oui, parce que souvent, nous, à parents aujourd'hui, on accompagne les parents, hein, beaucoup de parents, on fait des ateliers pour les parents, avec les parents, où il y a des partages d'expériences, tout ça. Et souvent, ce qui remonte, c'est cette envie d'être un parent tip-top, un parent parfait,
hein,
être un super parent. Et du coup, c'est très culpabilisant comme message, parce que voilà, à chaque fois qu'on n'y arrive pas, ben on se dit, je suis nulle, j'y arrive pas. Pourtant, ça a l'air simple, etc., etc. Pourquoi est-ce que les autres y arrivaient pas, moi? Pourquoi est-ce que ça semble plus facile chez les autres avec leurs enfants et pas avec le mien ou les miens? Et voilà. Et ça, ce parent parfait, ben première chose à dire, c'est que l'enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Voilà, il suffit juste d'être un parent suffisamment bon. Et quand on n'a pas été tip top, et ben ma foi. On retourne voir l'enfant, on lui dit tout à l'heure, voilà, je t'ai dit des choses, je m'en excuse. C'est pas ce que je voulais dire. Voilà, tu vois, moi aussi, j'ai été pris par la colère.
Ouais.
Et j'aurais peut-être dû faire plus attention à toi. Voilà, est-ce que tu veux bien qu'on en reparle? Et l'enfant, il peut entendre ça. Voilà. Alors, il s'agit pas non plus de toujours excuser ses comportements. Hein, voilà, il faut quand même avoir un peu de self-control. Mais en même temps, on peut pas être parfait.
Mm-hmm.
Et la perfection, ça n'existe pas.
D'accord, et c'est très en plus éducatif pour l'enfant, parce qu'il s'aperçoit
oui.
en fait qu'il n'a pas à devenir un être parfait comme
exactement.
C'est comme il pense que ses parents sont.
Oui,
hein.
Et ça montre à l'enfant que lui-même peut s'excuser. On demande souvent à l'enfant de s'excuser de ses comportements, mais en fait il a jamais vraiment de modélisation par rapport à ça, alors que l'enfant agit beaucoup par mimétisme, par modélisation de l'adulte. Et voilà, savoir s'excuser auprès d'un enfant, c'est une arme très puissante. Pour les parents d'adolescents, par exemple, où c'est vrai que l'adolescence est une période un peu tumultueuse, un peu chaotique au niveau de la relation, hein, où il y a beaucoup d'enjeux, effectivement, hein, que je peux pas expliquer comme ça complètement aujourd'hui, mais c'est vrai que pouvoir s'excuser à un moment donné, eh ben, c'est permettre à l'adulte de renouer le lien avec l'ado.
Mm-hmm.
Et c'est une arme extrêmement puissante que peu de parents d'adolescents utilisent.
Mm-hmm.
Et finalement, c'est dommage parce que ça marche très très bien. Et au final, ça va s'inverser et c'est l'ado qui va dire « Oui, oui, moi aussi, je m'excuse, c'est vrai que
là j'ai été un peu fort, je sens bien que j'ai poussé le bouchon un peu loin.
Mmh. Il suffit d'essayer, hein.
Mais absolument. Et c'est pas parce que ça ne marche pas une fois ou deux fois qu'il faut renoncer. Voilà, c'est comme tous les outils. Il y a des fois ça fonctionnera, des fois ça fonctionnera pas, et c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Voilà.
Très bien, merci Nathalie. Tu m'as dit également en préparant l'émission, un enfant qui va bien est un enfant qui se comporte bien. Explique-nous ça.
C'est souvent, c'est vraiment pour aller vers l'autre pendant, de dire un enfant qui va mal, c'est un enfant qui se comporte mal. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que quand on désapprouve les comportements d'un enfant, parce qu'effectivement, il peut être dans la provocation, il peut être dans la répétition d'un comportement qu'on a interdit ou dont on a manifesté notre mécontentement. Cet enfant-là, s'il vient à chaque fois titiller la limite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Et c'est bien souvent un moyen d'expression très maladroit chez l'enfant, mais en même temps pouvoir aller au-delà du comportement et chercher véritablement ce qui se passe dans la tête de l'enfant, c'est très intéressant parce qu'on peut voir que des fois l'enfant existe juste dans ces comportements-là un petit peu déviants, un petit peu problématiques, parce qu'effectivement il n'arrive pas à trouver sa place ailleurs.
Mmh, mmh. Et quand tu dis un enfant qui va bien est un enfant qui se comporte bien, ça veut dire que est-ce qu'on peut l'entendre qu'à partir du moment où l'enfant nous paraît en équilibre, serein dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'on peut en déduire qu'on a une éducation qui est juste par rapport à lui ?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et on peut avoir une éducation juste et bienveillante, c'est-à-dire que à un moment donné, quand il faut poser le non, eh ben oui, ça va frustrer l'enfant, mais la frustration, elle est nécessaire dans son développement et c'est comme ça qu'il va se construire parce que sinon ça reviendrait à dire oui à tout et à faire un enfant roi, et on sait très bien que les enfants rois deviennent des adultes très malheureux.
Mm-hmm. Très insatisfaits.
Et oui.
C'est un des problèmes de notre société actuelle.
C'est ça.
Alors, tu nous parlais d'éducation positive. Tout ce que l'on vient de raconter, c'est l'éducation positive. Alors, forcément, ce terme m'a inspiré. Positive, éducation positive. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'interview flash. Nathalie, explique-nous en quelques mots ce qu'est l'éducation positive.
L'éducation positive, c'est donner toutes les clés à l'adulte et à l'enfant pour avoir une relation sereine et apaisée. Une relation où on puisse effectivement transmettre des valeurs, mais également accompagner l'enfant dans son autonomie, dans sa prise de décision, dans ses choix de vie, dans la manière dont il va se construire sa propre image de lui-même, son estime de soi. Voilà, c'est ça. C'est aussi permettre au cerveau de pouvoir maturer et d'arriver à son plein potentiel. Voilà, parce qu'on sait aussi, les neurosciences nous indiquent aussi que tout ce qui stresse, la délibération de cortisol, qui est l'une des hormones du stress, par exemple, va venir parasiter les connexions des synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Donc ça va permettre, empêcher la pleine maturation, la pleine intégration des différentes parties du cerveau. Voilà. Donc l'éducation positive vise vraiment à favoriser le plein développement de l'enfant dans le futur adulte qu'il va devenir.
Les détracteurs dénoncent un manque de fermeté de l'éducation positive. Que réponds-tu ?
Ben oui, mais je dis que le laxisme, effectivement, c'est délétère. Le laxisme n'est pas l'éducation positive. Voilà, c'est un amalgame, c'est un raccourci très rapide qui a été fait pour des gens qui peut-être ne connaissent pas tout à fait bien leur sujet.
Pour toi, élever un enfant correspond à quel objectif ?
À l'amener mon objectif, c'est celui aussi d'Isabelle Filioza, qui en parle dans son livre « Il n'y a pas de parents parfaits ». Elle dit « Éduquer un enfant, c'est l'amener vers l'âge adulte, évidemment, c'est cheminer avec lui pour lui donner toutes les clés, pour qu'il devienne le futur citoyen de demain, qu'il puisse développer son propre libre arbitre, etc. » Et elle va plus loin, Isabelle Filioza, elle dit « C'est aussi donner la possibilité à cet enfant de devenir lui-même un jour, s'il le souhaite, un bon parent. »
Une question de saison maintenant. Trouves-tu positif de faire croire aux enfants que le Père Noël existe ?
Alors, je sais qu'avant 7 ans, l'enfant est beaucoup dans l'imaginaire. Et on doit nourrir cet imaginaire-là. Alors après, chaque famille chaque famille fera son choix. Moi, dans l'absolu, faire croire au Père Noël, à cette entité magique qui permet, enfin, où tout est possible. Hein, cet univers de la magie de Noël, moi, me plaît beaucoup chez le jeune enfant. Après, ce qui me plaît beaucoup moins, c'est le chantage peut-être à Noël. Attention, le Papa Noël te regarde, sois sage, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sinon tu n'auras pas tes cadeaux. Alors ça, non.
En éducation positive, on utilise la CNV, communication non violente. Oui. Comment peux-tu la définir en quelques mots ?
La communication non violente, alors effectivement, la communication positive a des bases de CNV. Raisonner en termes de besoins, ça c'est essentiel, les besoins de l'enfant. L'enfant, quand il fait quelque chose, c'est que derrière, il y a un besoin. De la même manière, quand il reproche quelque chose à son parent, tu t'occupes toujours de lui, en parlant de l'autre, de la fratrie, ou tu n'es jamais là. Derrière tout reproche, il y a un besoin. Donc, c'est à nous, parents, à chercher quel est le besoin qui motive l'enfant.
Aujourd'hui, tes enfants ont 17 ans et 11 ans.
Oui.
Est-ce que c'est automatique pour eux, la communication non violente ?
Alors, pour ma fille, pas tout à fait. On a démarré la CNV, je dirais, quand elle avait déjà 7-8 ans. Pour mon fils, par contre, qui a 11 ans maintenant, oui. Et tous les jours, je suis ravie de constater que finalement, par modélisation, il reproduit des choses. Et si tu veux que je te cite une petite anecdote très récente, il joue au foot, hein, il joue en club de foot, donc il a des entraînements deux fois par semaine, il a des matchs le samedi après-midi. Et donc, la semaine dernière, en revenant de l'entraînement, il me dit, il explose de colère dans la voiture, il me dit « Maman, j'en ai assez de... » alors on va l'appeler Théo. Voilà, j'en ai assez de Théo, sans arrêt sur le terrain. Il me dit ouais, fais pas ci, fais pas ça, attention. Voilà, il me critique, etc. Alors il était très très en colère. Alors j'ai accueilli ça en lui disant vraiment ça te vexe. Hein, tu as l'impression de te sentir incompétent. Tu as l'impression qu'il commande et que c'est à lui de diriger le jeu, etc. Donc on en a parlé. Et puis je me suis dit tiens, je vais appeler l'entraîneur parce que vraiment ça peut pas durer. Ça fait plusieurs fois qu'il m'en parle, etc. Et puis par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Et puis samedi soir, il a eu le match samedi après-midi. Et samedi soir, il me raconte, il me dit « Maman, tu sais, je suis allée voir Théo avant le match et je lui ai dit « Théo, je n'aime pas quand tu me commandes sur le terrain et quand tu me critiques et quand tu me dis ce que je dois faire parce que vraiment, je fais de mon mieux. » Et alors, je l'ai regardé et j'ai dit « Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Il m'a dit « Ok. » Et je lui ai dit « Mais le match s'est bien passé. » Il m'a dit « Ouais, super, il m'a rien dit. » Ah, je lui dis, mais c'est extraordinaire, c'est chouette, bravo. Enfin, je l'ai vraiment félicité, j'étais très, très émue, vraiment.
Mm-hmm. Oui. Et c'est tout simple.
De cette manière de résoudre son conflit, enfin, de résoudre, voilà, son différend avec cet enfant de manière plutôt pacifique. Oui. Effectivement, il a attendu d'être calmé, de pouvoir en reparler avec lui à froid. Voilà.
Nathalie, on comprend en t'écoutant qu'on a beaucoup de travail à faire sur la parentalité. Partage-nous une chanson qui nous donne du courage.
Ce n'était pas moi, c'était un mot qui me ressemblait. On fait des choix, on fait des fautes, pas de regrets. Tout n'est qu'une histoire de cailloux que l'on sème, de savoir où aller et d'être soi-même. Laisser derrière soi les rêves que l'on traîne, un avenir tout droit. Savoir où l'on va, celui que j'étais, je le laisse derrière moi. Ce que l'on devient, ce qu'on attend, tout reste à faire. On a chacun des rêves d'enfant à satisfaire. Il n'y a pas de hasard, les cailloux que l'on sème font que tôt ou tard, on devient soi-même. Laissez derrière soi les rêves que l'on traîne, les avenirs tout droits, pour être soi-même, savoir où l'on va, celui que j'étais. Chercher un endroit
soit toujours un autre qu'on attendait. Tout n'est qu'une histoire de cailloux que l'on sème. Il n'y a pas de hasard. Pour être soi-même et laisser derrière soi les rêves que l'on traîne, les avenirs tout droit. Pour être soi-même, savoir.
Celui que j'étais. C'est Nathalie Toroglosa, mon invitée à Ondes Positives cette semaine, qui a choisi d'écouter Emmanuel Moir parce que ce sont des paroles qui te parlent, Nathalie.
Ouais, ouais. C'est vrai que c'est des paroles qui m'émeuvent, oui, qui me parlent. Cet avenir tout droit, sortir un petit peu de ces sentiers un peu balisés et pouvoir prendre des chemins de traverse. Savoir qui l'on est, hein, c'est peut-être la quête de toute une vie.
Celui que j'étais, c'est le titre de cette chanson. Et oui, ça veut dire que si en écoutant cette émission, on se dit qu'on peut changer des choses dans sa relation à l'enfant, eh bien, il ne faut pas culpabiliser de celui ou celle qu'on a été.
Absolument.
Si on s'est trompé, qu'on a utilisé le chantage affectif, on en a parlé, qu'on a mis des fessées, qu'on est débordé souvent de colère, eh bien, plutôt que se figer dans la culpabilité, on peut se mettre en mouvement vers une relation gagnant-gagnant.
Absolument.
Alors, cette relation gagnant-gagnant, tu m'en as parlé en préparant l'émission, et j'ai compris qu'en fait, cette relation-là, on pouvait la mettre en place avec la CNV dont on parlait pendant l'interview flash, la communication non-violente.
Oui, la CNV et puis d'autres outils aussi. Hein. Mm-hmm. La CNV, on raisonne en termes de besoins, mais après, on a quand même tout un tas d'outils, ce qu'on appelle des habiletés. Alors, Adèle Faber et Hélène Maslisch en parlent beaucoup dans leur livre, dans ce programme « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Et puis maintenant, on a à disposition tout un tas d'outils qu'on fait découvrir aux parents lors d'ateliers, voilà, où on leur apprend vraiment, d'une part, à pouvoir réfléchir, à faire des prises de conscience, parce que je pense que le premier pas vers le changement, c'est vraiment la prise de conscience. Voilà ce que je fais, voilà ce dont j'ai envie, qu'est-ce qui ne va pas, et comment est-ce qu'on arrive à être en adéquation avec tout ça. Voilà.
Alors, tu nous parles d'atelier, justement. Mmh. Je voudrais qu'on parle un petit peu plus maintenant de l'association Parents d'aujourd'hui, que tu as créée avec ta collègue.
Oui, avec ma collègue Christelle Ansart, oui, oui.
En juillet 2013, hein, oui. Tu nous le disais tout à l'heure. Alors, pourquoi avoir créé une association ?
Parce que très vite, il fallait poser un cadre à tout ça. Se dire, oui, effectivement, je vais discuter avec des parents, on va faire un petit atelier comme ça, avec mon association de parents d'élèves. Ça suffisait plus. Il fallait vraiment des statuts dédiés. Mmh. Et un vrai projet associatif, un vrai projet, voilà, et des ambitions. Donc avec Christelle, on s'est vraiment intéressé d'abord à la relation parent-enfant, donc au travers de proposer aux parents des groupes de parole, pouvoir venir déposer des choses un petit peu lourdes parfois, ou au contraire pouvoir venir partager avec d'autres parents des expériences positives de manière à nourrir tout ça et puis se dire oui, je suis sur le bon chemin et ça me donne l'impulsion pour continuer dans cette dynamique. Donc des ateliers, des groupes de parole, des conférences également. Mm-hmm. Et puis très vite on s'est dit que autour de l'enfant, il n'y avait pas que des parents, il y avait aussi beaucoup d'adultes, et de remettre l'enfant au cœur du système, c'était pour nous
inéluctable. Donc c'est pour ça qu'on est aussi devenu organisme de formation professionnelle, de manière à pouvoir proposer de la formation professionnelle continue aux adultes qui travaillent avec des enfants, que ce soit des adultes qui travaillent avec des enfants en petite enfance, en enfance ou en jeunesse, avec des adolescents, peu importe.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu es formatrice au sein de ce centre de formation qui s'appelle également Parents Aujourd'hui ou qui a un autre nom ?
Et non, ça s'appelle aussi Parents Aujourd'hui, c'est association et organisme de formation.
D'accord.
On n'a pas changé de nom. Donc effectivement, Christelle et moi nous formons, mais on a également une équipe de 6-7 formateurs sur diverses thématiques qui interviennent au niveau de l'association. Voilà.
D'accord.
On est spécialisé un petit peu chacun dans notre domaine.
Ouais. Et donc le public que vous formez, c'est par exemple des assistantes maternelles ?
Oui, alors beaucoup d'assistantes maternelles, parce qu'effectivement on est labellisé par Hyperial Institute, qui a le monopole de la formation professionnelle continue chez les assistantes maternelles. Donc toutes les assistantes maternelles connaissent le catalogue Hyperia, et effectivement tous ces outils là on les développe essentiellement dans une formation phare qui s'appelle Adapter sa communication avec l'enfant. Voilà, donc déjà rien que dans le titre, donc là effectivement on peut travailler toute cette communication positive à l'enfant, mais également on travaille également avec des structures, les structures petite enfance, que ce soit crèche, multi-accueil, etc., centre de loisirs, voilà.
Et on vous trouve à Boulogne dans le 31?
Oui, alors le siège de l'association est à Boulogne. On a la municipalité de Boulogne nous met à notre disposition des locaux, mais on est également très mobile. On se déplace énormément sur tous les territoires. Voilà. Okay. On s'est pas véritablement donné de limite. On a déjà fait peut-être 250 km pour aller former des assistantes maternelles, ou on est monté dans le nord du 46. Enfin voilà.
D'accord.
Mais on est mobile.
Bon, pour l'instant, ça reste plutôt dans la région, on va dire.
C'est régional. Oui, régional, tout à fait.
D'accord.
Oui.
Ok.
Tout à fait. Parce qu'on est un réseau au niveau national avec d'autres associations, d'autres centres de formation. Et quand on nous demande, on cherche à relayer et à pouvoir donner le bon contact au bon endroit. Voilà.
D'accord. Alors tout à l'heure, donc ça c'est pour la partie professionnelle, formation, etc. Tout à l'heure, tu nous parlais de la partie plus associative, les cercles de parole.
Oui.
Je suis sûre que certains auditeurs qui nous écoutent sont déjà intéressés. Donc ça se passe également à Boulogne, là,
ça se passe à Boulogne. On a mis en place une permanence le mercredi matin. Donc c'est tous les mercredis matins, sauf pendant les vacances scolaires, voilà, puisque ces groupes de parole-là se font sans les enfants. On parle essentiellement d'enfants, mais c'est hors de leur présence. C'est important que les enfants soient pas présents, si ce n'est parfois un tout petit, un nourrisson, un bébé, ça on peut l'entendre. Et là encore, je serai vigilante aux mots qui seront employés. Voilà, il s'agit pas non plus que l'enfant. On a l'impression que l'enfant ne comprend pas, mais l'enfant comprend tout.
Oui, et puis prend les émotions, émotions arrivent.
Absolument.
C'est un endroit pour que les parents se déposent, en fait.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Et donc, vous regroupez les parents par, en fonction de l'âge de leurs enfants?
Alors, non, pas forcément. Sur ces groupes de parole, sur cette permanence qui est libre, qui se déroule de 9h15 à 11h15, donc les mercredis matins à Boulogne, ça c'est libre, c'est vraiment en fonction. Les parents arrivent à l'heure qu'ils veulent, repartent à l'heure qu'ils veulent. C'est à chaque fois, c'est très changeant. En fait, c'est pas toujours les mêmes. Il y a des fidèles, d'autres qui viennent une fois de temps en temps quand ils peuvent, des fois qui viennent de très loin pour venir discuter avec nous. Ça dépend.
On retrouve toutes vos actualités, tous les horaires, etc. sur le site,
alors
j'imagine.
Sur le site et surtout sur la page Facebook. C'est vrai que Facebook, ce réseau social nous permet quand même d'avoir une communication un peu instantanée et régulière. Voilà, chose qui est un petit peu moins aisée sur un site internet. En plus, là, il est en pleine refonte, donc on est en plein travail avec le webmaster. Mais sur la page Facebook, Parents Aujourd'hui, on trouve toutes les informations.
D'accord. Et puis pour le site, quand il sera refait, ça sera... C'est aussi parentsaujourd'hui.org.
Oui, c'est ça.
Parents avec un S.
Un S.
Alors, est-ce que tu es aujourd'hui le parent que tu rêvais d'être il y a 17 ans?
Oui.
Ouais.
Oui, je peux le dire sans hésitation, oui. Et je trouve ça très gratifiant. Et à chaque fois que j'arrive à régler une petite chose dans ma relation, voilà, une petite chose qui aurait pu dégénérer, une petite chose conflictuelle, je me sens vraiment aidante. Tu vois, ce mot aidante, voilà, ça veut dire que j'ai aidé mon enfant à aller mieux. Et en tout cas, à gérer mieux son émotion, voilà.
Alors en tout cas, tu as œuvré pour prendre tes enfants par la main,
oui.
par le cœur.
Oui.
Hein, tu vois où je vois. Où
absolument.
Je
oui. Mais oui, c'est une vieille chanson. Yves Duteil, prendre un enfant par la main. Mais pour peu qu'on prenne le temps de bien écouter les paroles, ce sont ouais. des paroles très très belles, vraiment.
C'est Nathalie Toroglosa qui nous partage cette magnifique chanson. Nathalie de l'association Parents Aujourd'hui qui parle de l'éducation positive. Il nous reste quelques minutes, Nathalie, pour la rubrique « Je partage ».
Oui.
« Alors tu le sais Nathalie, et j'ai imaginé que dans cette mise à l'honneur, chaque invité puisse en fin d'émission parler d'une personne, d'une association, d'une entreprise, d'une action locale qui l'inspire. Qui veux-tu mettre à l'honneur Nathalie ?
Alors j'ai pensé à mon ami Jacques Tellier de l'association Vive la vie Montessori qui se situe à Fabas.
Dans le 82,
oui, dans le 82, voilà. La pédagogie de Maria Montessori, c'est une pédagogie ancienne, hein, qui date du 19e siècle, mais pour autant qui est en plein essor depuis de nombreuses années, parce que c'est une pédagogie extrêmement bienveillante au niveau des apprentissages chez l'enfant, voilà, que ce soit chez le tout petit enfant avec ce qu'on appelle la vie sensorielle, la vie pratique, tous ces exercices là qui vont viser à exercer ses sens et à aiguiser ses sens et à le conduire vraiment à le conduire petit à petit vers ces grands apprentissages que sont la lecture, l'écriture et les mathématiques. Voilà. Donc Jacques Tellier, Vive la vie Montessori, lui est éducateur Montessori depuis plusieurs années, depuis une quinzaine d'années, et dans son association, il accueille des enfants, notamment pendant les vacances scolaires, pour des stages, ce qu'on appelle les stages de vacances Montessori, où l'enfant va venir exercer de manière beaucoup plus ludique des apprentissages dans lesquels il peut être en difficulté à l'école, dans le système classique, le système scolaire classique, mais également se faire plaisir et nourrir sa soif d'apprendre et d'expérimenter. Voilà.
Oui, parce que dans cette pédagogie Montessori, on fait confiance à la curiosité de l'enfant et à sa motivation à aller apprendre de façon individuelle, mais en prenant parfois des chemins qui peuvent être un peu déconcertants par rapport aux rails qu'on nous propose dans l'éducation nationale.
Oui, il faut qu'apprendre reste un plaisir. Et ça, Maria Montessori l'avait très bien compris. Et donc, c'est une pédagogie extrêmement bienveillante parce que tout le matériel est autocorrecteur. C'est-à-dire que quand l'enfant fait un exercice, que ce soit de mathématiques ou de français, s'il y a une erreur, l'enfant s'en rend compte lui-même. Voilà, c'est suffisamment bien fait pour que l'enfant puisse se corriger lui-même. Donc, il n'est pas en échec. Oui. Il est en apprentissage. Voilà.
Et ça change tout.
Ah, mais complètement.
dans cette association Vive la vie Montessori, donc à Fabas, il y a également des formations pour adultes qui apportent donc les apports théoriques de la pédagogie Montessori et également les aspects plus pratiques, la manipulation du matériel pédagogique.
Tout à fait. Alors il y a des petites sessions d'une demi-journée par exemple pour venir découvrir le matériel Montessori. Donc là les adultes se réunissent, qu'ils soient parents ou professionnels de l'enfance, se réunissent autour de Jacques Tellier pour manipuler le matériel et Jacques leur présente donc le matériel dont ils ont besoin selon l'âge de l'enfant. Et puis après, il y a des formations un petit peu plus poussées à différentes formations pour voir un petit peu, pour que l'adulte puisse, s'il a des objectifs, par exemple, de mettre en place quelque chose dans sa classe, c'est souvent les enseignants qui s'intéressent à ça, ou les parents qui font l'éducation à la maison, qui scolarisent à la maison. Donc ça permet effectivement de pouvoir manipuler ce matériel-là, pouvoir s'en inspirer, pouvoir le mettre en place après, si on est un petit peu bricoleur.
Voilà. Très bien. Donc pour les personnes que ça intéresse, aussi bien les vacances Montessori pour les enfants que les formations pour adultes, pour connaître mieux cette pédagogie-là, vous pouvez aller vous renseigner sur le site de l'association Vive la vie Montessori, vive-la-vie-montessori.fr, et c'est dans le Tarn-et-Garonne, tout près de chez nous.
Oui.
Merci beaucoup Nathalie pour tous tes partages aujourd'hui au micro d'Ondes Positives et ailleurs depuis longtemps.
Merci à toi Dorothée.
Merci de nous avoir ouvert à une éducation respectueuse des besoins de l'enfant et témoigner aussi de ton propre parcours personnel. Merci pour tout ça.
Merci Dorothée.
Et puis je rappelle, si vous voulez en savoir plus, suivez la page Facebook Parents Aujourd'hui, Parents avec un S, et puis le site internet parentsaujourd'hui.org. Chers auditeurs, vous voilà informés, il est possible d'être le parent que vous rêvez d'être, bienveillant, respectueux, générateur de paix plutôt que de conflit, et vivre ce rôle de parent dans la plus grande confiance possible. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée dimanche à 20h et vous pouvez aussi la trouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique les émissions, émission Ondes Positives. Vous pouvez aussi à votre tour venir partager un message positif. Il suffit de me contacter par mail, je suis Dorothée Alliot et mon adresse dag@s'accomplir.com. Je vous souhaite une très belle semaine positive et à mardi prochain.
Listen as the crowd.